Autre radio, autre culture, bonsoir, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons Lucas Pira. Lucas, bonsoir, avec sa compagne Satomi.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Satomi. Et nous avons, bien sûr, notre cher Christophe Bouillot.
Le bavard, bonjour.
Le bavard, bonsoir. Le candide de service. Voilà, nous recevons donc Lucas parce que Lucas a une particularité, c'est un monsieur très tatoué, c'est un monsieur qui a des piercings. Également, alors comment on appelle ça? Ce sont des implants, qu'est-ce que c'est?
Ouais, j'ai des implants et tout. En fait, je travaille en général sur la modification corporelle, donc à peu près tout ce qui peut être accessoire de la présence, on va dire. J'ai ça sur moi.
Et ça, Tommy, est-ce qu'il y a aussi un... Enfin, je vois, il y a aussi un travail sur le corps de votre part.
Oui, effectivement. Donc, je suis, oui, tatouée, percée, avec quelques implants, mais je suis aussi artiste-performeuse.
D'accord. Donc, on va parler de tout ça. Alors, Lucas, c'est des bijoux, visiblement. Enfin, on a l'impression que ce sont des bijoux, mais ce sont des piercings particuliers, quand même.
Oui, alors, si tu veux, oui, on peut appeler ça des bijoux. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la possibilité d'avoir amener des matériaux extérieurs sur le corps. Vraiment tout ce qui peut permettre de le modifier, de le transformer. Donc jusqu'à maintenant, tu pouvais avoir tout ce que les gens connaissent assez classiquement, c'est-à-dire piercing, tatouage, et puis petit à petit, ils sont arrivés des trucs comme les implants, qui sont pour le moment aussi du bijou, mais qui ouvrent des possibilités de transformation un peu plus poussées.
Alors quel est le besoin de se faire mettre des implants, de vouloir transformer son corps de cette manière-là?
Oh ben, je peux parler à mon niveau, mais bon, en règle générale, tout le monde à un certain niveau transforme son corps. Tout le monde se coiffe, se maquille. Beaucoup de gens se font faire des petites chirurgies, des petites injections de Botox ou du tatouage ou ce qu'on veut. Enfin, la transformation du corps, ça c'est pas quelque chose de nouveau. Après, vraiment d'engager une démarche particulière autour de ça c'est quelque chose d'un peu différent. Mais c'est vrai que la transformation du corps, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Personnellement, ma démarche est peut-être un peu plus extravertie, on va dire, un peu plus visible, en dehors d'une certaine norme peut-être établie. Donc c'est peut-être la seule vraie particularité. Et peut-être aussi le fait que je lance à travers ça une prospective.
Quel a été le déclic pour se changer et se transformer le corps de cette manière-là?
Le besoin de changer en général, en fait, le corps, ça a été juste un médium, en fait. Ce qui m'intéressait, c'est de pas seulement de changer la forme, mais de changer le fond. Il y avait plein de choses qui me convenaient pas dans ma personne et dans ma personnalité, et j'ai essayé de changer et la personne et la personnalité plus ou moins en parallèle.
Cela a abouti? Est-ce que ça a fait son effet, ou alors tu es toujours à la recherche de quelque chose?
Je suis pas nécessairement à la recherche de quelque chose, mais j'espère n'être jamais abouti. C'est une espèce de quête permanente, de pas vraiment d'un idéal, mais d'une amélioration et d'une évolution. Donc, si un jour je suis arrivé au bout, ça voudrait dire que j'ai arrêté d'évoluer. Et si on arrête d'évoluer, la vie n'a plus vraiment beaucoup de sens. Donc, j'espère que je vais continuer à évoluer, à chercher et à découvrir pendant longtemps.
C'est une évolution physique, finalement, que tu recherches?
C'est une évolution et physique et psychologique. C'est vraiment une évolution vraiment complètement en parallèle. Moi, j'aime bien utiliser une petite phrase qui dit « Quelle chenille songerait à voler avant de devenir papillon ?» Ça illustre bien ça, en fait. Il y a des choses que tu ne peux pas vraiment imaginer tant que tu ne les as pas explorées. Donc, le fait d'aller plus loin avec mon corps, ça me permet aussi d'aller plus loin dans ma quête spirituelle, peut-être. Je ne sais pas si elle est vraiment spirituelle, mais dans ma quête d'idéal ou d'autre chose.
Donc, à chaque fois que tu te rajoutes quelque chose, c'est pour passer une phase, c'est comme une mue?
J'aime bien l'image de la mue, oui, effectivement.
Alors, on passe aux implants, parce que c'est quand même quelque chose de particulier, qui est assez récent, quand même, au niveau de l'être humain, de se mettre des implants. Mmh. Est-ce que c'est par rapport à un courant américain qui s'est développé, ou alors c'est une idée qui est venue d'elle-même?
Le courant américain, je sais pas. Et c'est vrai que les implants ont démarré aux États-Unis. Après, c'est pas nécessairement l'endroit où ça a le plus explosé. Mais oui, c'est quelque chose d'assez récent. Donc, ça fait pas très longtemps, en fait, qu'on a la possibilité vraiment de travailler sur notre corps, de rajouter des éléments extérieurs, qu'on a des matériaux qui sont biocompatibles, que ce soit au niveau des implants classiques, quand tu fais des pommettes ou le nez ou les seins, ou quand tu fais des implants comme nous, on les pratique, principalement avec du Teflon, on utilise beaucoup Teflon, un petit peu de silicone. Mais ça n'y a pas très longtemps qu'on a un peu ce pouvoir. Mais à tous les niveaux, depuis pas très longtemps, on est en train de prendre en main pas mal de possibilités d'évolution, pas mal de possibilités de transformation. C'est quelque chose de très très récent et qui amène à énormément de choses. Enfin, en dehors de modifications qu'on peut pratiquer sur nous, tu peux voir que dans l'actualité qu'il y a énormément de choses qui se passent au niveau de la transformation de l'humain en général. Tu vois, on commence à travailler sur des gènes humains, travailler des gènes artificiels. Enfin, l'homme est en train de devenir son propre dieu, si on peut faire la parabole. Ce qui est intéressant quand tu es ton propre dieu, si on peut utiliser cette image, c'est que tu peux créer ton propre univers. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel univers on est en train de créer, qui va créer cet univers. Et j'aime bien être partie prenante de cette évolution et partie prenante de mon évolution. Pas laisser trop les gens contrôler ce que je peux devenir ou ce que je dois être.
Est-ce que tu serais prêt à aller plus loin dans ton évolution physique ?
Oui, bien sûr. Pour le moment, je commence à peine à toucher à des choses auxquelles je rêve depuis des années. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les transformations. Je pense que le corps, pour reprendre un artiste qui s'appelle Stellar, qui est un artiste australien, qui travaille aussi dans une autre direction, mais sur le corps, je pense que le corps est obsolète, en fait. Le corps est plus nécessairement adapté à la société dans laquelle on vit, aux besoins qu'on a. Donc oui, ça m'intéresse de pouvoir aller aussi loin que possible dans la mesure où c'est quelque chose que je fais pour moi et en ayant décidé en pleine conscience. Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, mais pour lesquelles d'autres personnes vont détenir les clés. C'est ce qui me gêne un peu quand je regarde ce qui se passe au niveau des évolutions, des possibilités de transformation. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles on a un véritable contrôle.
Quelle est la question qui t'ennuie le plus quand on te voit ?
Est-ce que ça fait mal ?
On dit que c'est assez douloureux dans la pose. Est-ce que c'est vrai, justement ?
Non, je pense que la douleur, ça, elle fait partie du process. Désolé pour mon anglicisme, des fois j'ai un peu du mal avec le français. Du processus. Oui, la douleur fait partie du processus, mais c'est pas quelque chose qui est recherché, c'est pas quelque chose qui est nécessairement subi. Enfin, il existe des moyens de pallier... ibuprofène ou xylocaïne. Il existe beaucoup de moyens de... La douleur n'est pas vraiment ni vraiment une...
C'est pas une recherche. C'est pas une recherche pour cette mue, je veux dire.
Non. Elle peut avoir une fonction.
Ouais.
Il y a un anthropologue en France qui s'appelle David de Breton qui a écrit pas mal de très bons livres là-dessus, notamment l'anthropologie de la douleur, dans lequel il aborde la douleur au niveau des transformations corporelles. Et c'est vrai qu'elle peut avoir un sens quand les choses sont ritualisées, elle amène peut-être un plus parce que tu passes par des étapes qui ne sont pas nécessairement évidentes et qui bouleversent vraiment ta personnalité au niveau psychologique, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta tête. Mais bon, après, c'est pas une recherche, c'est vraiment uniquement dans certains cadres, comme je disais, ritualisés, où là, elle peut être utilisée. Mais sinon, en l'occurrence, dans ma démarche, absolument pas.
Est-ce que tes tatouages que tu as veulent dire quelque chose, comme par exemple ce qu'il y a au niveau des Tahitiens, où les tatouages sont très rituels et veulent vraiment dire quelque chose ? Est-ce que toi c'est pareil ? Est-ce qu'il y a un message qui est porté ?
Ouais, en fait c'est exactement pareil et en même temps c'est complètement différent. La différence qu'il va y avoir, c'est que par exemple tout ce qui se passe au niveau tribal, les modifications vont être quelque chose qui vont te marquer à l'intérieur d'un groupe et qui servent à t'identifier à l'intérieur d'une tribu, d'un clan, d'une famille, alors que moi c'est effectivement il y a un sens, mais c'est dans une individualisation, c'est justement pour me démarquer par rapport à justement un clan, une famille ou autre, et à apporter mes propres symboles. J'essaie d'inventer mes propres codes, de poser mon propre message. Mais si tu veux, si tu regardes toutes les modifications que j'ai sur moi, tu peux le prendre comme un puzzle qui raconte ma vie.
Et une chose que je me pose comme question à chaque fois, c'est que certaines personnes se font tatouer sur tout le corps et le gardent jalousement pour elles. Alors je pensais que le tatouage, c'était justement pour se démarquer d'une société et pour s'individualiser et se montrer en disant « je suis différent de vous ». Quel est l'intérêt justement de ces tatouages que l'on ne voit pas et qui sont sur le corps mais qui sont invisibles à la société ?
Je pense qu'il y a autant de démarches que d'individus, donc je peux répondre pour moi et peut-être, donner quelques indications. c'est vrai qu'il y a des, il y a des personnes, en l'occurrence moi je l'utilise pour montrer quelque chose, moi ça m'intéresse l'interaction avec mon environnement, tu vois, tous les implications socio-culturelles que ça peut avoir d'être différent m'intéresse beaucoup. Après, il y a des gens qui sont pas du tout interpellés par ça, qui vont avoir une démarche qui va être beaucoup plus introvertie et qui vont jouer un peu le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu vois. Tu vas les rencontrer dans la rue, c'est monsieur et madame tout le monde, et en privé, ils extériorisent quelque chose, mais vraiment, vraiment pour quelques proches ou pour des gens qui peuvent faire partie de leur clan, de leur tribu. Enfin, je pense notamment aux Yakuza, par exemple, au Japon, où tu vois, quand tu les vois extérieurement, c'est des gens normaux. Et quand tu les vois, quand ils sont entre eux, leur tatouage est extrêmement porteur de sens, mais ils le montrent que dans un certain contexte. En Occident, ça peut être un peu la même chose, mais ouais, je pense qu'il y a autant de démarches que d'individus, au moins autant que de groupes d'individus.
Dans ces démarches d'implants, de piercing, de tatouage, est-ce que tu veux appartenir à une certaine communauté ou justement tu t'individualises de ces communautés de tatoueurs et autres ?
Moi, à la base, c'est une démarche d'individualisation. Vraiment créer mon propre personnage, ma propre personnalité. Mais après, effectivement, tu te retrouves en parallèle avec d'autres gens qui ont des démarches plus ou moins similaires. Donc, tu te retrouves à intégrer un groupe. Mais le but n'est pas de s'intégrer à un groupe. C'est tant mieux si à un moment, tu te retrouves pas complètement isolé parce que... Bah, on vit quand même en société, donc c'est bien d'avoir des rapports humains et de pas être complètement autiste et isolationniste. Oui, le but n'est pas de s'intégrer. Enfin, moi, en général, tout ce qui concerne les tribus, tout ce qui est un peu clan, tout ça me gêne un peu, tu vois. D'être enfermé comme ça un peu dans des règles que j'ai pas moi établies. Après, c'est vrai que tu peux faire des compromis et, comme je disais, vivre en société, ça comprend aussi des règles. Mais pas être à la recherche d'un groupe comme ça. Et ce qui me gêne aussi dans les tribus, c'est que historiquement, on s'est aperçu qu'on pouvait facilement les parquer et que, en l'occurrence, je suis un nomade et j'ai pas trop envie d'être parqué.
Quel a été le premier tatouage ?
Premier tatouage, ça a été mon bras biomécanique, en fait. Ça a été une très grosse pièce, en fait. C'est déjà dans l'idée de cette fusion de corps et de machines, ou en tout cas d'éléments extérieurs. Donc je voulais un peu représenter ça. Et à l'époque, c'était pas encore vraiment possible d'intégrer des éléments extérieurs. Mm-hmm. Tout ce qui est biomécanique, qui commence à ne plus être de la science-fiction, l'était à l'époque. Et puis moi, j'ai toujours été baigné par une certaine pop culture de super-héros et donc toute cette imagerie me plaisait beaucoup. Donc ça a été un peu de représentation visuelle de ce que j'imaginais.
Oui, parce que quand on te voit et quand on voit les tatouages, on a des idées ou des souvenirs de bandes dessinées, oh, de Möbius et compagnie, qui sont des bandes dessinées de science-fiction et qui mélangent l'homme et la machine.
Oui, caste du Métabaron, j'ai grandi avec. Voilà, hein. Ouais. Moi, c'est Rank Xerox qui a été ma première source d'inspiration. D'ailleurs, je remercierai jamais assez Liberator pour ça. Et voilà aussi, maintenant ce qu'on connaît un peu plus, mais qu'on connaissait moins à l'époque, ou qui était réservé à une certaine contre-culture, tout ce qui est Iron Man, tout ce genre de personnages. Je rêvais de ça.
Comment tu as conçu ton personnage ? Alors, c'est la façon dont tu as mis tes piercings, la façon dont tu as placé exactement à certains endroits des implants. Ça vient comment ? Tu te regardes dans la glace et tu te dis, tiens, je changerais bien ça, j'évolue. Enfin, ou tu as une idée déjà dès le début et petit à petit, tu y arrives.
Non, j'avais pas de plan de...
Plan de carrière.
Ouais. Et puis c'était difficile à imaginer, c'est même encore difficile à imaginer ce qui va être possible plus tard. Tu vois, les étapes se posent petit à petit. Non, j'avais envie de changer. Donc au départ, ça a été des choses assez esthétiques et symboliques. Et puis petit à petit, des éléments sont venus se rajouter, des petits implants, des plus gros, des tatouages. Mais il y a toujours une volonté quand même de rester dans une démarche esthétique. Ça me gêne pas d'être un peu perçu comme différent socialement, mais j'avais pas envie d'une rupture violente, donc j'ai quand même essayé de garder une certaine logique esthétique dans ce que je faisais. Ça m'arrive souvent pour mes tatouages, notamment pour les tatouages faciaux, je dessinais avant pour essayer de trouver ce qui pouvait mieux le faire. En fait, c'était assez rigolo d'ailleurs. Souvent, je dessinais sur mon visage ce que j'imaginais et je dormais avec. Et le but, c'était je me levais le matin et de voir si ça me choquait quand je me levais le matin ou si ça me manquait au bout de quand il y était plus. Et au bout d'un moment, quand effectivement ça me manquait, bon ben voilà, là je le tatouais. Mais aussi, ça arrivait que bon, non, ça me choquait un peu, donc j'essuyais, je dessinais à un autre endroit et petit à petit essayer de trouver comme ça quelque chose qui soit à la fois logique et esthétique.
Est-ce que tu penses un jour que tu arriveras avec le visage complètement changé, je veux dire au niveau couleur, au niveau d'autres tatouages qui vont ça.
Ouais, j'envisage pas de complètement remplir le visage, bien que pourquoi pas, hein, parce que on n'imagine jamais maintenant ce qu'on va faire vraiment plus tard, mais j'ai déjà un plan pour étendre un petit peu sur le visage. Ça me gêne pas vraiment. Ce qui me gêne, c'est que pour le moment, j'ai pas encore fini le reste du corps et oui. J'ai pas envie d'avoir trop comme ça en avant sans avoir. Il faut que ce soit équilibré, tu vois.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Donc, j'ai pas envie d'être, quand je suis nu, d'avoir les jambes blanches et le visage noir.
Ça fait l'effet domino, black and white. Satomi, alors Satomi, tu es également tatouée. Mm-hmm. Tu as des très jolies fleurs et des étoiles.
Merci.
Pour toi, que représente le tatouage dans ces cas-là? Est-ce que c'est différent de Lucas?
L'approche est un peu différente, mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Lucas, j'ai commencé le tatouage, j'avais 17 ans et j'habite le Japon depuis très longtemps. Donc c'est vrai que mon approche est peut-être plus au niveau esthétique que socioculturel, l'implication socioculturelle que peut avoir Lucas. Mais quand on s'est rencontrés, c'est vrai que j'ai découvert plein de choses, surtout par rapport aux lois françaises qui dictent que voilà, certains changements que tu effectues sur ton corps vont à l'encontre de, vont plutôt attaquer l'intégrité du corps.
Ah oui.
Donc c'est vrai que j'ai découvert toute cette implication sociale que pouvait avoir les modifications corporelles sur le corps, l'implication politique. Mais c'est vrai que pour moi, je travaille peut-être plus sur comment ébranler les standards de beauté, surtout dans mes performances ou des performances avec Lucas où on fait des scarifications en live, notamment sur le visage, où voilà, on essaie de poser un questionnement sur le public, voilà, qu'est-ce que nos standards de beauté, comment on peut redéfinir nos propres standards et comment on peut modifier notre corps selon les standards que nous on s'impose et non pas ceux qui sont imposés par une société
normative,
voilà.
Alors Satomi, tu me parles de scarification, moi je vois une très très jolie femme devant moi. Les scarifications, c'est-à-dire, peux-tu nous en expliquer un peu plus?
Je laisse le spécialiste de la scarification.
Oui, en performance sur Satomi, ça a été juste une petite scarification sur le visage, mais assez symbolique parce que ça rentrait un peu dans une logique de comme un maquillage en fait, mais d'un seul coup de pousser un petit peu plus loin et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus définitif. Donc c'est une petite scarification, mais ouais, qui est porteur de beaucoup de symboles. Après on a fait des choses sur ses jambes qu'on a fait aussi en performance, mais quelque chose d'assez de très esthétique en fait, hein, qui souligne la courbe du mollet un peu comme la ligne des bas, hein, peut-être un peu plus japonisant dans l'approche. La scarification, ça fait un peu peur aux gens parce que c'est l'idée de découper la peau en fait qui inquiète, et puis l'idée du sang. En fait, les gens ont beaucoup de mal avec le sang. Je me suis rendu compte, c'est quelque chose d'assez infantile en fait. Les enfants, quand ils voient le sang, ils imaginent la douleur. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont un peu cette relation infantile, je veux dire, au sang.
Je pense aussi que c'est le terme cicatrice qui gêne aussi beaucoup les gens.
Oui, c'est à ça que je pensais, en fait. Quand je vous regardais, j'ai dit, vous êtes une jolie femme. Comment on supporte les cicatrices, quoi.
C'est vrai que, ouais, cicatrices, on associe cicatrices à la douleur ou la... Donc, la plutôt blessure. La souffrance et la blessure, qui est en fait une douleur qui est pas... qui est imposée, qui est involontaire, versus une douleur qui est gérable. Comment dire, self-inflicted, que
tu vois, que tu... En fait, il y a une grosse différence entre quand tu subis quelque chose et quand c'est quelque chose qui est volontaire. Oui. Bon, après, moi, je prends toujours un exemple assez simple, mais il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, le tatouage, la scarification, ça fait mal. Mais il y a beaucoup de gens qui se font, beaucoup de femmes notamment, qui se font épiler. Et bon, j'ai testé l'épilation personnellement. Le tatouage est loin d'être pire que...
Je sais pas pour le tatouage, mais c'est vrai que l'épilation, c'est pas génial.
Voilà, le tatouage est pas pire que l'épilation. Et c'est vrai que bon, le tatouage, une fois que tu l'as fait, tu dois pas le refaire. Alors que l'épilation, tu dois y passer assez régulièrement. Donc la notion de douleur, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les gens, mais finalement...
Mais c'est aussi la question de ne pas revenir en arrière, de ne pas pouvoir revenir en arrière.
Oui, mais petit à petit, c'est une notion qui se perd un peu. Enfin, c'est vrai, mais en même temps, c'est une notion qui se perd quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui pratiquent des chirurgies esthétiques toutes classiques, tu vois, où tu n'as pas non plus possibilité de revenir en arrière. Quand tu te fais refaire le nez, les pommettes, bon, le botox, oui, ça part avec le temps, mais... Tu vois, les seins, la liposuction, enfin, on est rentré depuis longtemps dans quelque chose où on a un peu démystifié le corps et démystifié un peu cette approche du corps. Voilà, il est comme il est, on n'y touche pas parce qu'on a peur de justement ne pas pouvoir revenir en arrière. Ça fait quelques années qu'on a brisé la frontière, on est arrivé à passer de l'autre côté. La seule différence, c'est que nous, on travaille en dehors de la norme établie. C'est, je pense, la seule vraie différence.
Est-ce que c'est pas une bonne chose aussi que les gens, un moment, aient un choix à faire de se faire faire quelque chose sur lequel ils ne pourront pas revenir en arrière dans une société où on est de plus en plus assisté, quoi.
C'est-à-dire
que socialement, on sait que si on fait une connerie, il y aura toujours quelqu'un derrière pour nous aider, alors que là, si on fait un truc et qu'on le regrette après... À la limite, il est là, même si on sait qu'il y a peut-être des moyens de
l'engagement. L'engagement est toujours intéressant à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, social, culturel, au niveau physique. Enfin, c'est bien que les gens s'engagent dans quelque chose. Après, il ne faut pas s'engager. Le problème, quand tu transformes ton corps, c'est de ne pas t'engager n'importe comment. Mais après, quand tu vois des gens qui... Enfin, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent des chirurgies esthétiques pour rentrer dans une norme sociale, pour s'intégrer de plus en plus...
Pour être cloné.
Voilà, pour être cloné, voilà, exactement. Pour s'intégrer, pour être accepté, il y a quelque chose qui peut quand même être à mon goût, même si j'aime bien ce genre de transformation, des fois, selon la façon dont c'est fait, ça peut être un petit peu pathétique, hein, tu vois, quand c'est uniquement pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on en a besoin pour s'intégrer, quand c'est le regard des autres qui dicte, ça me semble un peu risqué, quoi.
Tu es souvent confronté à ce genre de cas, toi, dans ton travail, de gens qui veulent se faire modifier, tatouer, percer, implanter, scarifier,
ouais,
couper, je sais pas quoi.
Ouais. Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent et qui sont des transformations, qui veulent se faire des transformations assez violentes pour s'intégrer à un groupe, quoi. Et après, je te dis, dans la chirurgie classique, il y a beaucoup de gens. T'as toujours dans tous les milieux. T'as un peu des normes qui se posent. C'est aussi ce qui me gêne beaucoup dans la modification corporelle, et c'est pour ça que, enfin, comme nous on la pratique, et c'est pour ça que je suis un peu en porte-à-faux avec beaucoup de gens dans la profession en ce moment, c'est que, à l'origine, quand on a commencé, c'est pas très vieux, hein, c'est une quinzaine d'années, quand on a commencé, c'était vraiment une individualisation. Donc, comme j'expliquais avant, où à des moments on pouvait se retrouver sur quelque chose, mais l'idée c'était vraiment d'exprimer son moi intérieur, tu vois, le moi peau. Hein. Ouais, c'était ce qui était intéressant. Et petit à petit, il y a une autre norme qui s'est créée, même dans le milieu des gens qui se transforment soi-disant pour s'individualiser. Maintenant, il y a de plus en plus de gens en fait qui clonent, qui reproduisent des stéréotypes. Tu vois, il faut avoir les implants comme ça, le tatouage comme ça.
Il y aura toujours ce côté clone de l'être humain où je veux ressembler à un tel. Bon, on se fait refaire les seins à la manière d'eux. Donc toutes les filles se ressemblent, elles ont les cheveux coupés de telle manière qu'elles sont, on n'arrive plus à les identifier. On a le tatouage du papillon ou de l'oiseau derrière l'épaule, enfin sur l'épaule.
Mais disons que les gens attendent, il y a beaucoup de gens qui attendent de moi de les accepter parce qu'ils rentrent dans une certaine esthétique, tu vois, parce qu'ils sont tatoués, parce qu'ils sont implantés, ou ce que tu veux, alors que c'est pas du tout... Enfin, moi, je reconnais pas la valeur des gens à ça, tu vois. Si on pouvait se fier à l'apparence, que ce soit dans le milieu des gens modifiés ou pas modifiés, ce serait assez facile.
Cette apparence, telle qu'elle est vue par les autres, est-ce qu'il y a des regards désagréables? On vous prend pour des extraterrestres, des mutants? Est-ce que la vision des autres, vous vous en moquez ou pas?
En fait, souvent, c'est les gens qui m'entourent qui me font remarquer que telle ou telle personne me regarde ou que telle personne parle sur moi. C'est quelque chose, c'est une notion qui je vois plus vraiment, en fait, je remarque plus vraiment tout ça. Merci. Si j'avais fait toutes mes transformations d'un coup, ça aurait été le regard des autres, ça aurait été quelque chose de très dur. Mais vu que les choses sont faites petit à petit, je me suis plus ou moins adapté, j'ai peut-être créé des réflexes naturels de... Je sais pas, c'est peut-être aussi pour ça que je porte des lunettes tout le temps. Ouais, ça glisse un peu, ça me gêne pas vraiment. Mais en même temps, les réactions sont pas nécessairement négatives. En fait, il y a un peu toutes les réactions que tout le monde peut avoir normalement, sauf qu'elles sont un peu exacerbées. Donc en général, les gens qui m'aiment bien m'aiment peut-être un peu plus que la normale, les gens qui m'aiment pas m'aiment peut-être un peu moins. Donc ça c'est peut-être la différence majeure.
Est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer des gens qui allaient très très loin dans le placement des implants et les piercings? Enfin, surtout dans les implants auxquels je pense.
Il y a quelques bons freaks qui traînent sur la planète. Il y a quelques-uns qui sont allés vraiment, vraiment très loin. Après, pas nécessairement dans quelque chose qui va m'interpeller, mais il y en a quelques-uns. Et bon, on connaît anecdotiquement, on connaît The Lizardman, l'homme lézard. Et il y en a un autre, l'homme lion, mais après il y a d'autres...
C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils se font en particulier, de particulier?
Transformer complètement, essayer de se transformer complètement comme un lézard, tu vois, pour ressembler à un animal. Mais après, il y a plein de démarches très extrêmes. Il y a beaucoup... En Amérique du Sud, tu vois aussi pas mal de gens qui vont très loin. Après, peut-être que c'est pas nécessairement dans une recherche personnel, mais peut-être pour dans un besoin de se démarquer. Au bout d'un moment, il y a une certaine surenchère qui se crée et tout. Et là, je pense qu'on est allé, on est allé vraiment loin. Donc, après, je suis pas sûr que ce soit intéressant. Enfin, c'est intéressant. Toutes les démarches, moi, je suis ouvert à toutes les extrêmes. À partir du moment où elles rentrent dans une logique personnelle, encore une fois, si elles sont dictées par les autres, ça me gêne un peu.
Sans porter du jugement de valeur, tu penses qu'il y en a qui sont allés trop loin dans le sens de mettre leur santé en jeu, enfin tu vois, mettre leur intégrité physique vraiment en jeu.
Il y a eu pas mal de problèmes. Moi, je me suis un peu battu justement contre certaines personnes qui pratiquaient sur d'autres des choses un petit peu trop radicales et qui étaient plus dans la mesure pour se faire un nom, pour se faire remarquer. Ou pour avoir des photos impressionnantes qui traînent sur le net que pour faire quelque chose de constructif. C'est clair que ça arrive.
C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une philosophie interne, enfin à soi, pour apprécier et évaluer les futures transformations que tu veux faire.
Ouais, si tu vas trop vite, c'est pas nécessairement bien. Puis il faut se rendre compte que ça a quand même d'énormes implications socioculturelles, tu vois. Ça change ta vie de tous les jours, donc il faut pouvoir l'assumer au jour le jour et à long terme. Donc c'est pas évident. Mais après, à l'inverse, je veux dire, les gens qui font rien sur eux aussi pour des raisons de rester dans une norme, je pense que c'est aussi dangereux, tu vois.
Alors, quel est votre travail à tous les deux? Racontez-moi tout ça.
Je te laisse commencer.
J'ai rencontré Lucas au Japon, à Osaka. Il est venu il y a 7 ans en tournée pour faire différents séminaires, performances. Et j'étais embauchée pour être sa traductrice. Et on s'est rencontrés comme ça. Et à l'époque, je travaillais encore dans un cabaret spectacle où on fait des performances un peu fétiches en mélangeant un bondage et différents éléments. Et donc moi, je faisais beaucoup de performances avec la suspension, avec les cornes. Et quand on s'est rencontrés, on a commencé à discuter. Et donc Lucas m'a parlé beaucoup des performances que lui faisait, des performances avec les crochets et moi avec les cordes. Et on a trouvé que voilà, on travaillait quand même avec des éléments communs, et moi plutôt sur la manipulation du corps et lui sur la modification. On a décidé d'explorer un petit peu ce que ça pouvait donner, et on a commencé à faire des performances ensemble, donc mélangeant ce concept de suspension du corps, donc mélanger les crochets, les cordes avec différents thèmes, et on a commencé à tourner comme ça.
Ouais, Satomi est spécialisée dans tout ce qui est bondage japonais, en fait. Tout ce qui est l'art d'attaché, en fait.
Est-ce que vous avez des relations avec ce fameux... je crois que c'est un photographe qui s'occupe de bondage au Japon. Il y a eu une émission sur Arte sur lui il y a quelques semaines. Et il travaille beaucoup sur des bondages où les femmes sont assez immobiles et il fait des tableaux comme ça.
C'est peut-être Araki ?
Oui, c'est peut-être lui.
Araki ? Non. Donc, oui, je mélange plusieurs éléments dans le bondage. Dans le port du kimono, je porte souvent des kimonos en performance, la danse traditionnelle japonaise, la musique, beaucoup de projections vidéo, des images japonisantes. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, moi et Lucas, lui faisait vraiment de la performance un peu dure, hein, avec les crochets. Et ouais. Peut-être on se trouvait tous les deux à une espèce de niveau de stagnation où on ne trouvait pas qu'on allait plus loin. Et c'est vrai qu'en commençant à travailler ensemble, on a trouvé un chemin à explorer.
Ouais, c'est ça.
Alors les crochets, ça veut dire, pour nos auditeurs, en quelque sorte.
Ça fait partie d'une de mes activités. C'est vrai qu'au niveau performance, je travaille beaucoup sur tout ce qui est performance avec des crochets, en fait. C'est-à-dire passer des crochets à travers la peau, vraiment de la performance physique pure. Où tu travailles de la suspension.
C'est-à-dire que tu t'accroches pas avec tes implants, si ?
Non. C'est vraiment, tu mets des crochets dans la peau spécialement pour la suspension. Donc là, c'est quelque chose d'assez extrême visuellement. Et c'est vrai que moi, comme je l'ai exploité pendant longtemps, ça a été de façon assez dure, assez brute et pas violente, mais à la limite de... Et
borderline.
Je voulais pas utiliser le terme borderline, voilà. Parce que je veux pas qu'on commence à rentrer dans des histoires de pathologie, parce que j'ai mis 10 ans à expliquer qu'on n'était pas des malades, donc je voudrais pas en rentrer dedans. Mais oui, quelque chose d'assez brut, d'assez dur. Mais en l'occurrence, ça peut un peu surprendre comme ça, mais quand tu imagines quelqu'un qui va escalader l'Everest, par exemple, par des températures qui peuvent être largement en dessous de zéro, avec des vents glaciales, oui. Avec peu d'oxygène, avec juste quelques cordes, un piolet, et t'es à moitié gelé, et t'en as même certains qui laissent des bouts de membres. On est un peu dans les parallèles, tu vois. La seule différence, c'est peut-être que la performance sportive, entre guillemets, est quelque chose qui a toujours culturellement été accepté, et que ce que je fais est un peu moins, voilà, culturellement en marge. Mais on n'est pas...
Est-ce que c'est une performance sportive, justement ?
Pour moi, c'est un peu entre la performance sportive et l'art martial, en fait. Tu vois, pour vraiment... Parce qu'il y a un besoin...
T'as un côté un peu fakir, finalement, non ?
Je sais pas. Mais ouais, pourquoi pas. Les gens peuvent faire une parallèle que moi je fais pas personnellement, mais il peut y avoir une parallèle. Ouais, entre la performance sportive assez extrême et un art martial, parce qu'il y a vraiment besoin d'être en phase avec soi-même quand tu pratiques ce genre de choses. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Satomi, j'étais peut-être allé au bout de ce que je pouvais faire avec ça.
Physiquement,
oui, dans le côté extrême, avec tous les guillemets que ça peut comprendre. Et quand on s'est rencontrés, il y avait un parallèle entre nos deux univers et quelque chose qu'elle pouvait apporter qui était beaucoup plus doux, beaucoup plus soft et aussi beaucoup plus facile à faire comprendre aux gens. Et finalement, autant quand moi je pratiquais tout seul, le message était plus hermétique, autant quand on a commencé à travailler ensemble, à la mettre elle en avant et à amener les choses petit à petit et amener vraiment la performance physique pure de la suspension derrière, d'un seul coup on arrivait à dialoguer avec beaucoup plus de gens. D'un seul coup ça a créé une ouverture, ça a créé un niveau de compréhension. D'un seul coup les gens disaient ah, c'est pas du tout ce que j'imaginais, parce que c'est vrai que comme là j'en parlais tout à l'heure, les gens vont dire oh, c'est un truc de fou, blablabla. Enfin, bon, j'ai entendu tout et son contraire là-dessus, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, que l'approche a été plus progressive, que les performances s'amenaient doucement, on a commencé aussi à travailler avec des musiciens qui faisaient des choses plus assez calmes. En fait, on a travaillé des performances à l'opposé de ce que je faisais. Au lieu de faire des choses assez dures, violentes et brutes, on a travaillé sur des choses extrêmement douces, extrêmement calmes, où tout toute la féminité, l'esthétique était mise en avant et où la partie la plus dure de la performance arrivait derrière. Et c'est vrai que d'un seul coup, l'approche a été complètement différente, la réceptivité des gens a été complètement différente.
J'imagine que les spectacles, ça peut pas être tous les soirs. Vous devez avoir un...
On a un répertoire un peu varié. C'est vrai que pour les suspensions, oui, on a des restrictions. C'est vrai que le corps peut pas encaisser.
Voilà, c'est ça auquel je pensais, oui.
Bien sûr.
Ouais, moi, j'essaie de faire maximum entre 8 et 10 performances par an, tu vois. Donc, c'est quelque chose d'assez rare et... Ouais, c'est rare et exceptionnel. C'est aussi ce qui fait l'intérêt du truc. Après, Satomi a un répertoire beaucoup plus large, donc elle fait des performances beaucoup plus souvent que moi. Bon, la performance, c'est qu'une facette de notre activité. On fait beaucoup de choses. Moi, je travaille aussi sur tout ce qui est transformation du corps en pratiquant. C'est-à-dire, je pose des implants, je scarifie, je fais beaucoup de choses comme ça. Je fais pas de tatouage, pas de piercing. Mais après, je fais tout ce qui est autre. Et puis, j'essaie de créer aussi des nouvelles choses. On fait aussi de la photo. Je suis photographe. Donc, Satomi pose beaucoup pour moi. On vient de sortir un bouquin ensemble. Enfin, on a sorti l'année dernière un bouquin ensemble avec un éditeur japonais. Et voilà, je fais des séminaires où j'essaie d'expliquer aux gens comment pratiquer de façon assez safe. Comment dire ?
Sécuritaire.
Sécuritaire ?
Ouais.
Et voilà, Satomi fait des séminaires de bondage. Enfin, on a vu qu'on vit que de ça et on vit en permanence en voyage, on est obligé d'avoir un panel assez large d'activités de manière à pouvoir rentrer un peu dans tous les milieux et avoir des groupes de gens intéressés un peu partout.
Alors question question pour Satomi. Alors c'est un petit coucou à un de mes amis qui s'appelle Gérald. Et Gérald, la question va être pour toi. Qui s'intéresse au bondage?
Plein de gens depuis quelques années. Le bondage a connu un boom extraordinaire en Occident, mais c'est vrai que historiquement c'est un art martial à la base, le bondage, on appelle ça le Hojo-Jitsu, donc l'art de immobiliser et capturer. Donc c'était un art qui était pratiqué par les samouraïs. C'est vrai que c'est un art, j'appelle ça un art parce que ça, il a connu énormément de changements et a évolué beaucoup. Maintenant, les gens qui s'y intéressent sont autant des photographes, des couples. Je fais une performance et je vais faire un workshop pour un club lesbien. Donc il y a énormément de féministes qui s'y intéressent aussi.
Ce qui est intéressant, parce qu'au départ, c'était vu vraiment comme quelque chose pour...
assez misogyne.
Ouais, c'était assez misogyne. C'était vraiment pour prendre la femme, l'empaqueter et qu'elle soit dans un coin, qu'elle bouge pas trop. Mais c'est vrai que finalement, c'est quelque chose qui est très esthétique et très sensuel. Donc il a commencé à interpeller peut-être plus les femmes, je pense, au début que les hommes, finalement. Comme elle dit, c'est intéressant de voir qu'il y a des féministes pures et dures qui sont fanatiques du bondage.
Ouais. Ouais, je commence même à voir des femmes qui me demandent de leur montrer l'auto-bondage, parce que c'est quelque chose que je performe aussi pendant les spectacles, où je m'auto-attache et finis en suspension. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes, de lesbiennes, de nanas qui revendiquent une certaine forme de féminisme, qui me demandent de leur apprendre comment faire l'autobondage, parce qu'elles ont envie de pouvoir de connaître comment elles peuvent se donner du plaisir elles-mêmes sans l'aide de qui que ce soit. Et c'est intéressant parce qu'on voit vraiment une évolution.
En Occident, ou c'est la vision japonaise est-elle différente de l'Occident à ce niveau-là ?
Oui, la vision japonaise est encore... bon, c'est une société patriarcale, donc on voit encore énormément de stéréotypes. Donc, c'est l'homme qui attrape sa soumise, qui l'attache, et qui l'immobilise et qui la torture. Mais c'est en train de changer.
C'est vrai qu'avant, c'était vraiment ça. Avant, c'était un rapport domination-soumission. Alors que maintenant, le rapport, il est plus un rapport de jeu.
Sensuel.
De jeu, sensualité.
Et esthétique.
Ouais, de jouer avec une certaine esthétique, avec plein de choses, mais qui ne sont plus un rapport purement dominant-dominé.
C'est quand même curieux. On va revenir à toi, Lucas. Je vois que dans les implants, tu utilises maintenant des nouveaux implants. Enfin, en fait, qui se voient. Je veux dire, par rapport aux autres qui étaient sous la peau. Maintenant, tu as trouvé une nouvelle ouais. méthode qui fait qu'on voit, l'implant tel qu'il est.
Disons qu'il y avait déjà une possibilité d'implants visibles, comme ce que je porte sur le crâne, qui sont ce qu'on appelle les implants transdermiques, donc qui passent à travers la peau.
Alors, quelle différence avec le piercing, véritablement?
La différence avec le piercing, c'est qu'en fait, déjà la procédure est différente, parce que c'est vraiment une procédure non pas où tu pinces la peau et tu perces, c'est une procédure où tu vas inciser la peau, où tu vas la décoller du muscle pour venir glisser une pièce que après tu vas faire ressortir. Et donc les bases sont, enfin la procédure est beaucoup plus invasive, les bases sont plus importantes, la partie qui en sort aussi, et ça donne d'autres possibilités esthétiques où tu peux y visser différents éléments. Si ça existe depuis un moment, mais ça se développe pas mal. Il y avait énormément de problèmes techniques, et c'est quelque chose qui n'avait pas vraiment évolué jusqu'à maintenant. Et un petit peu par hasard, en fait, grâce à un petit accident de procédure, en fait, une procédure qui s'est pas passée très bien, et la façon dont le corps a agi m'a un peu interpellé. Et grâce à ça, ça fait 3 ans que je travaille sur le projet, et grâce à ça, j'ai trouvé en fait le moyen, qui en théorie n'est pas possible, de remplacer une surface de peau qui peut aller de 2 cm de diamètre jusqu'à une dizaine de centimètres carrés par du titane. Donc en théorie, c'est quelque chose qui n'est pas possible, mais c'est quelque chose que je viens de prouver comme étant possible. J'ai expérimenté sur moi-même, donc j'ai le premier prototype. L'idée, c'est donc de remplacer des éléments de peau, bon, toujours dans mon délire un peu cyborg, super-héros et tout ce que tu veux, mais aussi de pouvoir y implanter, de pouvoir y poser des éléments technologiques. Donc vraiment, d'un seul coup, pouvoir arriver à s'approcher de cette idée de fusion homme-machine. Et aussi dans un côté ludique, parce que c'est vrai que tu peux avoir, par exemple, si t'as une jambe qui est coupée, tu peux avoir une jambe plus ou moins mécanique ou des choses comme ça. Mais tout ce qui est en train de se développer, c'est toujours dans le milieu médical, dans la recherche militaire, mais c'est jamais dans la recherche vraiment purement ludique. Ce que je suis en train de créer, c'est des espèces de petites cuves que tu vas avoir implantées, qui vont te permettre d'avoir des objets quelconques. En fait, pour l'anecdote, là, je suis en train de me faire une petite cuve avec un petit iPod shuffle qui vient se mettre dedans, parce que c'est quelque chose que j'ai quasiment toujours sur moi. Donc, je voulais vraiment l'intégrer au corps. Et donc, je vais avoir cet iPod Shuffle qui va être intégré à mon bras. Et voilà. Et après, on peut imaginer toutes sortes d'options, en fait.
On peut imaginer la petite capsule sur la tête où on peut mettre le pot de fleurs, et on change de pot de fleurs tous les jours.
On peut imaginer à peu près tout ce qu'on veut. On peut même imaginer pousser un petit peu et, par exemple, avoir une cuve avec ce fameux iPod ou un autre élément, et une cuve qui est à un autre endroit du corps avec, par exemple, un petit panneau solaire et simplement un câble qui va entre les deux. Et en fait, au niveau de l'énergie, que l'élément soit complètement autonome et complètement intégré à notre corps. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait et qui est en cours de développement.
Est-ce que les chercheurs s'intéressent à ton cas ? Dans la recherche médicale, je pense, par exemple.
Pour le moment, pas vraiment. En fait, le rapport avec les médecins a toujours été un peu bizarre, parce qu'ils... Il y a une espèce de lobbying, en fait, où en fait les médecins n'aiment pas trop qu'il y ait d'autres gens qui touchent sur le corps. Et c'est vrai qu'on nous a accusés une paire de fois d'être à la limite de la pratique illégale de la médecine par rapport aux recherches qu'on faisait. Donc c'est vrai que les rapports sont un petit peu difficiles par rapport à ça, parce qu'il y a une espèce
même
de
même si c'est fait par rapport à soi, c'est-à-dire...
La loi est extrêmement complexe sur le corps, enfin complexe en même temps, elle est assez simpliste malheureusement. En fait, on n'est pas propriétaire de notre corps. Tu peux pas faire ce que tu veux de ton corps. T'as pas la libre disposition du corps dans aucun pays occidental, t'as la libre disposition du corps. Évidemment, à la base, les lois ont été faites pour protégé, avec tous les guillemets, que mais tu peux pas vendre un organe, tu peux pas vendre un élément de ton corps, tu vois. Ça a été un peu l'idée, c'était un peu de protéger et contrôler, je pense aussi, quand même pas mal. Mais c'est vrai que, par exemple, admettons que mon nouveau système d'implant t'intéresse. Et on décide de faire la procédure ensemble, je te pose cet implant-là, et s'il y a quelqu'un d'extérieur qui voit ça et qui trouve qu'on est allé trop loin, qu'on a touché à l'intégrité de ton corps, même si toi tu étais d'accord sur l'acte, même si moi je suis d'accord sur l'acte, on peut se retrouver tous les deux au tribunal et avoir à justifier de ce qu'on a fait. Donc la loi est extrêmement serrée par rapport à
Ignore le consentement.
Elle ignore le consentement, en fait, ouais, tout simplement.
Comment ça se passe, justement, pour quelqu'un qui veut se faire poser un implant? Est-ce que on l'endort? Comment ça se passe, la pratique? Est-ce que c'est une pratique, justement...
Je vais pas dire comment ça se fait, parce que je veux pas avoir de problème.
Oui.
Mais je vais te dire ce qui est pas possible. En fait, aux yeux de la loi, c'est impossible, par exemple, que je te pratique une anesthésie.
D'accord, c'est impossible, oui.
Ni local non plus.
Ni local.
Et général, évidemment, mais local.
Non, ni local. L'anesthésie est quelque chose qui est réservé aux médecins. C'est-à-dire que pour le moment, la loi m'autorise à te faire à peu près ce qu'on veut, mais dans la mesure où, justement, je ne vais pas t'anesthésier. Donc on a le droit de se faire ce qu'on veut, mais on est obligé d'avoir mal.
Ouais, ça va un petit peu plus loin que ça, parce que tout ce qui est fait, tout ce qui est effectué dans un cadre médical... peut pas être fait par exemple par Lucas. Non, tu peux donner l'exemple de la circoncision.
Ouais, par exemple, pour le moment, la loi tolère certaines procédures. Alors après, peut-être pas nécessairement en France, en général, ce qui se passe dans beaucoup de pays occidentaux, c'est que la loi va tolérer beaucoup de choses qui sont pas faites dans le cadre médical. C'est-à-dire, je peux te poser des billes en téflon ou en silicone sur le torse, sur les bras. Je peux pas te poser des implants mammaires. Je peux te poser des petites billes sur les grandes lèvres, par exemple, pour une fille. Mais si j'ai le malheur de donner un coup de scalpel sur les petites lèvres, là, je vais en prison direct. Parce qu'il y a des lois extrêmement strictes sur tout ce qui est... transformation ou mutilation génitale, à cause de tous les problèmes qu'on peut connaître.
L'excision, pardon.
Après, je peux par exemple, l'exemple le plus extrême, on va dire, tu vois, une procédure qui est assez simple, c'est la circoncision. Si je fais une circoncision, là, je suis sûr et certain d'aller en prison directement s'il y a un médecin qui va se plaindre, qui aura entendu parler de la procédure et qui me met au tribunal. Donc là, je vais en prison direct et je suis difficilement défendable. Par contre, si je te fais une subincision, qui est une procédure extrême, où on ouvre l'urètre sur toute sa longueur, tu vois, on t'ouvre tes parties génitales en hot dog, ça, même s'il y a quelqu'un qui va se plaindre, évidemment, j'irai au tribunal, mais c'est franchement défendable. Tu
D'accord.
vois Parce ouais. qu'il va y avoir cette notion de consentement sur laquelle on peut discuter de bon, jusqu'où peut-on aller trop loin. Mais en l'occurrence, tu veux, je veux, on fait la procédure, il n'y a pas de législation précise là-dessus, on peut discuter. Mais c'est vrai que pour une procédure qui va être beaucoup plus simple comme la circoncision, là, c'est directement un exercice illégal de la médecine. Donc les lois sur le corps sont extrêmement ambiguës et vont être de plus en plus restrictives. Autant ce que je te dis maintenant au niveau des possibles et des non-possibles, le risque de changer peut-être demain, dans un mois, voilà. Ouais.
Alors quel est le devenir de ces gens qui se mettent des implants partout? Vous êtes des gens de spectacle, on peut le dire, vous êtes des artistes, tout le monde ne l'est pas. Donc quel est le devenir professionnel de la plupart, enfin des gens qui... pratique, je dirais, l'implant de manière exacerbée.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu fais les choses en pleine conscience, que tu sais que d'un seul coup, tu te mets en dehors du cadre social normal, ça t'oblige à créer une nouvelle sorte de société. Et comme jusqu'à maintenant, enfin, là, on est arrivé au point où on a pu expliquer qu'on ne vit pas dans une société parfaite, je pense que c'est intéressant d'enfin arriver à imaginer, à créer notre société.
Comme disait Brassens, les braves gens n'aiment pas qu'eux, on suit une autre route que.
Ouais. Mais tu vois, il y a encore 10 ans ou 15 ans, qu'on disait oui, mais mais vous vous marginalisez, si tu veux travailler dans une banque, machin, nanana, puis tout le côté, tout le côté où tu te retires complètement de la société, qu'il fallait travailler comme ça pour avoir ta retraite, pour ceci, pour cela. Bon, là, maintenant, on sait très bien que la moitié des gens ne vont pas avoir de retraite, que la société dans laquelle on vit, de toute façon, elle
dans
est...
Dans 10 ans,
elle...
ça se termine, la retraite, dans 10 ans.
Ouais. La société dans laquelle ouais. on vit, elle est plus qu'en décrépitude, tu vois. Enfin, là, maintenant, il est temps de créer quelque chose de nouveau. Donc, il y a des nouvelles générations de gens qui arrivent et qui créent une véritable rupture sociale à travers, peut-être, cette représentation du corps. Ça me semble peut-être quelque chose qu'il est enfin temps de... d'envisager.
Est-ce que chez les jeunes, c'est en voie de développement ou c'est vraiment encore des attitudes
non,
marginalisées?
Ça évolue beaucoup, notamment au niveau du tatouage, du piercing. C'est des choses qui sont rentrées dans les mœurs. Tu vois, moi, quand j'avais 20 ans, tu avais un piercing à l'oreille, tu te faisais traiter de pédé, tu allais dans un bar, il fallait que tu te battes une fois sur deux. Bon, là maintenant, tout le monde est percé, tout le monde est tatoué. Enfin, pas tout le monde, mais je veux dire, c'est rentré largement dans les mœurs. C'est des choses qui se font de plus en plus. Après, au niveau des transformations corporelles, il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver aussi. Bon, et puis même les transformations classiques, on va dire. Mais il y a aussi plein de trucs qui sont en train de se développer. Et c'est vrai que dès qu'on va arriver à des choses un peu ludiques, intégrées au corps, je pense pas que ça va choquer les prochaines générations. Ça va peut-être encore choquer ma génération. Peut-être celle qui arrive juste derrière, mais celle d'après, elle va avoir complètement démystifié le corps. Et je pense qu'encore une fois, l'obsolescence du corps, le fait que le corps est plus du tout adapté à la société dans laquelle on vit, et peut-être qu'il faut commencer à envisager de le bricoler, et peut-être de le bricoler comme nous on a envie, et pas comme les autres veulent nous l'imposer, c'est aussi quelque chose qui fait son chemin.
Justement, vous ne vous démarquez pas de tous ces gens qui se font des opérations pour se refaire les seins exactement de la même manière que l'actrice machin, que les hommes essayent d'être les plus sveltes possibles.
Le clonage.
Vous
ne
cherchez pas à être... Je suis moi. Je représente
ouais, ce qui,
une race
ce qui
à
ce
moi.
Ce qui m'intéresse, c'est l'individu, encore une fois. Tu vois, que les gens expriment un peu ce qu'ils sont, qu'ils fassent un peu leur propre recherche, leur propre chemin, qu'ils arrêtent un petit peu de suivre ce qu'on essaie de leur imposer à travers la pub, la télé, enfin tous les standards qu'on nous balance sans arrêt.
Est-ce que c'est pas aussi une démarche de ce qu'on appelle la génération X, la génération oubliée, qui est les 35-50 ans?
Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Moi, c'est vrai que l'idée de créer une société dans laquelle je me sens plus adapté, enfin, c'est depuis que j'ai 14-15 ans, c'est quelque chose qui a toujours été dans ma tête. Et c'est vrai que ça m'intéresse de voir que maintenant on puisse commencer à l'envisager, on puisse commencer à vivre comme ça. Puis aussi, c'est intéressant de voir que au départ, quand on commençait à pratiquer ce genre de démarche, c'était très mal perçu, les gens n'avaient aucun recul dessus. Mais petit à petit, je vois des jeunes qui ont 20 ans qui bientôt vont être peut-être avocats, qui vont être sociologues, qui vont être qui vont bosser à la télé, qui vont bosser dans tous les corps de métier, qui ont grandi avec ça, qui ont pu du tout le rejet de ça, qui peut-être eux-mêmes vont avoir leur petit atout, leur petit implant ou autre, et qu'on va enfin arriver vers quelque chose de plus ouvert. En même temps, j'ai beaucoup d'espoir et en même temps j'en ai peu, parce qu'en même temps je me rends compte que par exemple les gens qui étaient contre le piercing avant et qui critiquaient de façon assez dure le piercing et ou le tatouage, maintenant ils ont presque tout un tatouage, un piercing et ils trouvent ça très bien. Mais par contre ces mêmes gens, ils vont avoir le même regard dur et critique sur des choses qu'ils n'ont pas encore appréhendées, comme les implants, comme la scarification, comme des choses comme ça. Et je trouve dommage que les gens finalement n'évolue pas. Je trouve que les choses se déplacent, mais n'évoluent pas. S'il y avait une vraie évolution, ça voudrait dire que ces gens qui étaient critiques par rapport au tatouage et au piercing, et qui maintenant ont des tatouages et des piercings, se rendraient compte que peut-être ils étaient un peu dans l'erreur, et maintenant, quand ils verraient quelque chose qu'ils ne connaissent pas, pourraient se dire « Ah, effectivement, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais c'est peut-être quelque chose d'intéressant. » Ils n'auraient pas un regard, encore une fois, critique et très... Enfin, de juger comme ça.
Alors, vous avez tous les deux, enfin surtout toi, Lucas, bon, tu as les tatouages, tu as le piercing, tu as les implants. Est-ce que tu serais prêt à aller plus loin dans des choses qui ne se voient pas, comme par exemple ce qu'on appelle la nanobiotechnologie, c'est-à-dire se faire implanter des choses pour faire évoluer ton corps physiquement?
Bien sûr, moi, tout m'intéresse, mais je vais te dire quelque chose qui va arriver beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Par exemple, regarde, dans le sport, il se passe énormément de trucs, de gens qui prennent des produits, qui prennent des choses pour améliorer les performances, tu vois. Et aux derniers Jeux Olympiques, il y avait un mec, un grec, qui était amputé d'une jambe, qui voulait participer aux Jeux Olympiques. Et en fait, il y a eu un gros débat à savoir est-ce qu'il pouvait être en même temps que les valides dans les mêmes compétitions. Et est-ce que sa jambe lui donnait un désavantage ou un avantage? Donc d'un seul coup, on commence à se dire que peut-être le fait qu'il ait une prothèse lui crée un certain avantage. Si tu pousses un petit peu plus loin la logique qui est dans le sport, c'est quelque chose, à mon avis, qu'on va voir arriver assez rapidement. En fait, cette prothèse lui crée peut-être un avantage. Peut-être le fait d'avoir une prothèse et une jambe valide, c'est peut-être un certain déséquilibre. Mais on pourrait très bien envisager que ce gars-là décide en fait de s'amputer sa deuxième jambe pour rééquilibrer son corps et pour augmenter ses performances. Et tu pourras très bien imaginer, peut-être pas aux prochains Jeux Olympiques, mais dans ceux d'après ou ceux d'après, enfin là ça va être de la science-fiction ce que je raconte, mais en même temps ça n'en est pas du tout, et je pense que le futur va rapidement prouver que j'ai raison, mais tu pourras imaginer des athlètes valides qui vont peut-être un jour décider de se faire amputer, tu vois, pour augmenter leur performance physique. Comme là, maintenant, les mecs rentrent dans le dopage.
Pourtant, on a les Jeux Olympiques des handicapés. Cela même, on a vu, par exemple, des coureurs à pied qui sont amputés des deux jambes et qui ont des prothèses et qui leur permettent de courir avec des prothèses spéciales pour courir encore plus vite. Ouais. Et ceux-là ne sont pas acceptés dans les Jeux Olympiques.
Mais bientôt les valides, frontières. Dirais-je. Bientôt, je pense que les frontières entre valide, non valide, entre normal et abnormal, et entre biologique et biomécanique vont exploser dans pas très longtemps. C'est des choses qui arrivent très vite. On voit tout ce qui arrive par rapport aux gens qui ont des problèmes de vision, où là, t'as la technologie qui va arriver. Je parle pas de la technologie biologique, tu vois, mais vraiment un apport mécanique, biomécanique, que ce soit pour les yeux, pour l'ouïe, pour les jambes, pour les mains, pour tout. Je pense que le corps tel qu'on l'a connu touche à sa fin, en fait.
Alors, question qui fâche à tous les deux, qui vous êtes si beaux dans vos tatouages et autres. Comment vous voyez le vieillissement, votre propre vieillissement? Comment vous l'envisagez?
Je pense comme tout le monde, hein. Un peu plus fripé. Un peu plus fripé.
Est-ce que ça sera facile à accepter par rapport à d'autres? Parce que vous êtes tellement quand même à la recherche d'une image.
Oui, mais on n'est pas à la recherche d'une perfection. C'est vrai que j'aimerais bien que la technique me permette de garder un corps parfait jusqu'à ce que je meure. En l'occurrence, on n'y est pas encore. J'essaie juste d'améliorer, d'aller un petit peu plus loin et de façon un peu plus esthétique. Après, comme tout le monde, on subira les assauts du temps. J'espère que les générations futures le subiront plus. Je trouve quand même dommage, tu vois, quand on arrive maintenant, tu te retrouves, tu vois, à une certaine époque, à 30 ans, t'étais mort. Après, à 40, t'étais mort. Là, maintenant, quelqu'un comme moi, je peux envisager, si je me débrouille pas trop mal, vivre jusqu'à 80, 90 ans. Personnellement, vivre jusqu'à 80, 90 ans avec des problèmes de dos, des problèmes d'érection, des problèmes de vue, des problèmes d'ouïe, je trouve ça quand même un peu dommage. Je trouve c'est bien si on peut amener la technologie à nous aider à améliorer tout ça, et puis aussi tout ce qui est parure, comme le tatouage ou autre, à être encore un peu plus présentable jusqu'à la fin.
Non, mais de toute façon, après, chaque décennie amène un peu plus de sagesse. Donc peut-être qu'on perd un petit peu au niveau extérieur, mais on gagne un peu à l'intérieur. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a plein de techniques qui nous permettent de nous conserver un peu plus. Hein.
Puis peut-être que le temps va tout simplement s'imposer à vous, et que, enfin, comme il s'impose sûrement déjà. Enfin, on sait tous vers où on va, et que
bien sûr,
un endroit ou un autre de votre cerveau, de votre démarche, est assimilé. Et je pense que voilà, il va.
Ça me gêne pas plus de vieillir avec des tatouages que de vieillir sans tatouage. Enfin, à la limite, je préfère vieillir avec mes tatouages, parce qu'au moins il y a peut-être la la marque de, d'une certaine sincérité dans, dans un engagement. Tu vois. Au moins, je, pour moi, quand je me regarde dans la
c'est
glace...
C'est pas dommage de voir l'œuvre d'art disparaître avec vous elle... Parce qu'en fait, c'est une œuvre d'art.
Mmh. Ouais, on peut peut-être
c'est
se faire...
C'est votre œuvre d'art.
C'est votre œuvre d'art, oui.
On peut peut-être se faire plastiner par Gunther Van Hagens.
Tiens, je vais te mettre
dans mais après, salon. Je sais pas... Je me vois pas finir dans un bocal, dans un musée d'anthropologie cybernétique. Tu vois.
Non, mais on pense à ces Chinois qui ont fait des expositions de cadavres, en fait.
Ouais. En fait, c'est un Allemand qui fait ça, Gunther Van Hagens, et qui utilise des corps de... Enfin, il y a beaucoup de polémiques parce qu'il utilise des corps de prisonniers chinois, tout ça. Mais ouais, on pourrait très bien imaginer ça. Après, non, moi, vraiment mon ultime transformation, parce que moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est vraiment l'idée de transformation permanente, l'idée de métamorphose. Et maintenant, il est possible, hein, depuis un petit moment, il est possible techniquement, avec nos propres cendres, de créer un diamant artificiel. Pour moi, ce serait vraiment la transformation ultime, tu vois, que le jour où je meurs, oui, qu'on fasse de mon corps, qu'on le brûle, qu'on en fasse un diamant et qu'on en donne peut-être qu'on en fasse deux et qu'on en donne à ma femme et à ma fille, je pense que ce serait parfait.
Quelle est l'actualité du moment ou prochaine? Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois?
Il y a le livre déjà, tu ne nous as pas donné le titre et référence, j'imagine qu'on peut le trouver sur internet.
Oui, c'est vrai, il y a le livre Tokyo Love Doll qu'on a sorti. Après, nous, on est en permanence en voyage, en fait, depuis 10 ans, certains amis depuis un petit peu moins, mais on est en voyage permanent, et là, on est en route jusqu'à... On part en Italie, elle part au Japon, on va en Australie, on fait une performance au Venezuela au mois d'octobre, on fait plein de choses un petit peu partout.
Sur nos sites internet, où on pourra retrouver un peu d'actualité.
Alors, sur nos sites internet, à chaque fois, on a des blogs qui sont liés. Donc, celui de Satomi, en fait, ça s'appelle tokyolovedoll.com, en un seul mot. C'est un site que je conseille parce que c'est pas si didactique.
Pas un catalogue de...
C'est plus un concept.
C'est un univers. Enfin.
C'est un site qui a été fait tout en flash, qui développe vraiment tout...
Différentes facettes du personnage.
Ouais, c'est un site assez onirique. Après, il y a mon site photo qui s'appelle blowyourmind-production.com. Et j'ai un autre site qui est sur tout ce qui concerne les transformations corporelles qui s'appelle hackingthefuture.org.
Très bien. Écoutez, merci d'être venu. Moi, ça m'a fait très plaisir de découvrir cet art du piercing, du tatouage et des implants. C'est quelque chose qui semble tellement étrange et tellement science-fiction et tellement bioman sur certains points que je vous attendais avec impatience. Et donc, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci Christophe.
Ah bah, avec plaisir.
D'être là. Je vous souhaite bonne route, bon voyage, bon spectacle. Et puis, revenez nous voir.
On reviendra. Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Autre radio, autre culture. Au revoir. Autre radio, autre culture.